4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud pousse d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Nous voilà, bien le bonjour les amis, du marché à la cuisine, en passant par les arrière-cuisines. Comptez sur nous, nous allons célébrer les plaisirs de la table ce matin. De l'exotique au rustique, on va prendre le bouillon, mais alors là, sous toutes ses coutures, vous allez entendre. Chaque semaine, dans le JDD, le journal du dimanche, elle nous prouve qu'elle a le goût des autres. Hommage aujourd'hui à Jean-Pierre Bacri avec Charlotte Langrand. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent.
Ah, vous ferez un bel hommage à notre
oui,
Jean-Pierre Bacri,
fallait,
qui nous manque déjà. Côté bonne bouteille, il connaît la chanson. Il va d'ailleurs nous jouer un air du Schnorr aujourd'hui. Olivier Pouls, bonjour.
Ah oui, je vous garantis que je vais vous faire découvrir un vin qui va vous surprendre, mais alors qui va vous surprendre.
Restez avec nous jusqu'à midi et demi. Franchement, il y a pas mal de surprises aujourd'hui, oui. Et un peu avant midi, nous allons recevoir et bichonner un bon vivant qui prend soin des autres. C'est le bon docteur Patrick Peloux qui sera des nôtres. Et puis honneur à nos étudiants aussi. On pense à eux, on les soutient, on sait qu'ils traversent une période difficile. Alors le plat du jour sera réalisé par les étudiants apprentis de l'école Ferrandi. À table les amis. Alors, question rituelle, hein, on ne déroge pas à la tradition, comme on dit, quel est votre goût de la semaine? Je me tourne vers vous, Charlotte.
Je vais vous parler de soupe, moi. Écoutez, parce qu'il y a un superbe petit livre qui est très délicat, qui s'appelle « Journal d'un amoureux des soupes » de Julien Ponceblanc. Ça montre que ce petit plat n'est pas si banal que ça, qui peut vraiment pimenter le quotidien. C'est une déclaration d'amour. Il y a un petit topo à chaque fois de l'auteur sur chaque soupe. À quel moment on peut la faire?
Alors, soupe, potage, velouté.
Voilà, de tout. Et vous avez la soupe pour épater sa grand-tante, cèpe, mascarpone, noisette. Vous avez la soupe de veille d'examen.
Ouais.
Vous avez
la soupe de veille d'examen?
Alors, c'est chou, tofu, pistache.
Ah oui, pourquoi pas.
Ça peut aider à réussir les examens. Et sinon, une soupe tiède après le dentiste, par exemple, patates, courgettes, anis vert. En tout cas, c'est vraiment délicat, c'est incarné. Ça fait du bien parce que c'est pas du tout impersonnel et vraiment, les recettes donnent vraiment envie
bien,
d'être faites. Donc, je vous le conseille, c'est aux éditions de La Martinière.
Et tout à l'heure, on parlera des bouillons. Rien à voir,
voilà.
Vous entendrez avec
rien
le chef William Ledeuil. Votre goût de la semaine, cher Olivier?
Eh bien, il m'a un peu surpris. J'adore le vinaigre et j'adore particulièrement le vinaigre balsamique. Alors, on le sait, les grands vinaigres balsamiques, c'est une tradition italienne hein, de la région de Modène. Ils ont un savoir-faire là-bas qui est ancestral. Et j'ai goûté un vinaigre balsamique made in France, qui est produit dans le Vercors. Alors, il n'a pas le droit à une appellation, mais il est réalisé exactement selon le même principe. Et c'est un vinaigre dans les règles de l'art. C'est-à-dire, c'est pas une réduction comme on le trouve de temps en temps avec du sucre dedans
et du caramel,
et du caramel
oui.
etc. C'est un vrai vinaigre qui a... Alors, il y a plusieurs dans la gamme, il y a plusieurs vieillissements. Mais en tout cas, il était surprenant, il est remarquable. Ça s'appelle la clandestine et c'est donc un vinaigre balsamique français.
Eh bah très bien.
Délicieux.
Vive
le
Made in France. Mon goût de la semaine, eh bien écoutez, j'ai pu m'échapper 2 jours dans mes Hautes-Vosges et je suis allé faire de la raquette dans la neige et j'adore ça. Et figurez-vous que j'ai fait une petite pause déjeuner avec mon camarade guide qui s'appelle Gwen et on a cassé la croûte avec un bon pâté lorrain qu'on n'a pas fait réchauffer évidemment et avec un bon blanc des Vosges, un bon blanc de rhubarbe, vous savez, de la famille Moine.
C'est délicieux, ces vins là aussi, très surprenants et on peut faire des accords, et ça marchait bien avec le pâté lorrain.
Ça marchait très bien, puis ça réchauffait vu les températures.
Ça aide à slalomer après.
Oui, on est en raquette, ouais.
Oui,
absolument.
Pardon.
Mais si on peut slalomer en raquette, mais voilà, c'est périlleux. Depuis une semaine, c'est couvre-feu à 18h pour tout le monde, hein, évidemment, alors ça demande une organisation particulière pour faire ses courses. Jean-Luc Boujon, notre correspondant dans le Rhône, vous a tendu le micro à la ferme lyonnaise, un magasin de producteurs situé à Craponne. On se dépêche, ça va bientôt fermer.
J'ai fait la fermeture, j'étais la dernière, elle a un petit peu couru.
Vous êtes sortie plus tôt du travail?
Un petit peu, justement, voilà, pour pouvoir trouver les magasins encore ouverts.
Vous avez acheté quoi alors, dites-moi?
Oh ben, écoutez, les produits pour faire la soupe, hein. Les oignons, de la courge, les poireaux, les carottes. C'est à peu près le plat de tous les soirs de la semaine.
Ah oui, dès ce soir?
Ah, dès ce soir, ça y est, je vais m'y mettre en rentrant.
Merci, madame.
Merci bien.
Bonne soirée à vous aussi.
Ce sont les produits du moment, des endives, des carottes, poireaux, pommes, poires.
J'ai dû me dépêcher, en plus avec les embouteillages, c'est un peu galère, mais bon, on fait avec quoi.
Vous avez quand même eu le temps de choisir des choux.
J'ai pris ce qui restait, un peu de chou, de la salade, de la courge, voilà.
Le chou par exemple, vous allez le préparer comment?
En salade, je vais le mariner avec du vinaigre de riz un peu et ça fait une salade un peu asiatique.
C'est bon ça, le chou, le chou. Bah tiens, on va en parler de la choucroute dans un instant et des produits fermentés, mais c'est vrai vrai que c'est bon pour notre petit intérieur, comme on dit. Hein,
pour notre flore intestinale.
Pour notre microbiote, la fameuse microbiote.
Alors évidemment, le confinement à 18h, c'est pas très agréable. Ça oblige, on le voit,
à se courir. Hein.
Mais voyons peut-être le côté un peu positif des choses. On est à 18h à la maison, on a un peu plus de temps pour cuisiner.
Oui, exactement. Et moi, je découvre.
Mais faisons mijoter.
Oui, et moi, je mange plus tôt maintenant.
Ah, 18h.
Non, 18h30. Non, mais 19h30,
ouais.
Eh ben, c'est pas mal, je peux vous dire.
Ça vous laisse un peu plus de temps pour digérer.
Voilà,
avant de se coucher.
C'est très bon.
C'est parfait.
On se couche plus tôt, le sommeil d'avant minuit étant réparateur. Non, mais je pense qu'il va se passer des choses dans notre vie.
Non, mais profitons-en pour. En instant, utilisons-le pour cuisiner.
Et puis, continuons à rendre visite à nos producteurs locaux, hein, évidemment. Merci à la ferme lyonnaise. À Craponne, on était à 10 km de Lyon et merci à Jean-Luc Boujon pour ce joli micro-trottoir, comme on dit. Et puis sinon, il y a épicerie.com qui vous vend aussi des produits locaux directement dans toute la France pour manger local et de saison. Alors avant de boire la tasse avec de délicieux bouillons, on va s'intéresser aux légumes fermentés, on le disait. La choucroute, bien sûr, mais il y en a plein d'autres. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Ni cru, ni cuit, les légumes fermentés existent depuis la nuit des temps. Choucroute, cornichons, citron confit, c'est vrai qu'on mange fermenté depuis la préhistoire. Alors, loin des préjugés, je le disais avant la pause, la fermentation veut du bien à notre petit intérieur. On va l'entendre avec Charlotte dans un instant. Mais avant, on va remonter le temps, Olivier. De quand ça date, tiens, par exemple, la choucroute?
Ceux qui pensent que la choucroute est alsacienne, mauvaise réponse. Non, ça remonte à la Chine et ça remonte à la construction de la Grande Muraille de Chine, où il y avait un problème technique qui consistait à permettre de nourrir les ouvriers de produits, entre guillemets, à peu près frais. Et donc la technique de la fermentation du chou qui était inventée à ce moment-là, elle permettait de pouvoir servir à ces ouvriers. Il y a plus de 3000 ans, du chou qui était consommable.
C'est vrai que c'est un entre-deux, c'est fermenté, mais ça reste frais pratiquement.
Et on garde des vitamines, et donc on évite certaines carences. Et puis cette choucroute, elle est arrivée progressivement par les conquêtes et par l'Est. Et elle a bien fait d'ailleurs de s'arrêter en Alsace à un moment.
Et puis on y revient de plus en plus aux produits fermentés, Charlotte. Chez soi, à la maison, on peut en faire,
évidemment,
bien sûr.
Évidemment, mais tout simplement parce que c'est simple à faire chez soi. Vous avez des légumes, vous avez du sel, vous les taillez, ces légumes. On enferme le tout dans un bocal. On appelle ça la lactofermentation parce que l'acide lactique va jouer le rôle de conservateur naturel.
C'est ça, c'est ce que disait Olivier pour la choucroute des pyramides, en fait.
C'est ça, c'est ça. Et il y a un certain engouement, vous le disiez tout à l'heure, parce que ça participe au retour du naturel, ça rejette l'alimentation industrielle. Donc, c'est bon pour la santé aussi.
Et c'est bon pour la microbiote, la flore intestinale.
Voilà, on parlait de la flore intestinale tout à l'heure.
Et si vous faites, par exemple, des carottes fermentées, pour 400 grammes de carottes, 3 grammes de sel.
Et il en faut pas beaucoup en
plus.
Non,
c'est pas énorme.
Voilà, ouais, ça c'est
bien.
Simple.
C'est vrai que moi j'aime bien le goût de ces produits lacto-fermentés, comme on dit, parce qu'on retrouve le goût des aliments avec une légère acidité et puis une texture plus ou moins croquante en fonction du temps de maturation. Et on peut s'amuser comme ça à avoir des contrastes de texture.
Alors justement, il faut savoir quand même que les légumes d'été, c'est pas l'idéal. Ça devient un peu mou, ça se dissout un petit peu dans la saumure, ça n'a pas grand intérêt. Vaut mieux donc, comme vous dites Olivier, laisser macérer des légumes d'automne. Qui se tiennent mieux. Donc allez-y, betteraves, carottes, panais, céleri, tout petit passé.
Et les navets, moi je reviens du Grand Est, dans les boucheries dans le Grand Est, on vend de la choucroute de navets.
Ce qu'on appelle de la navroute.
C'est ça, c'est ça exactement. Alors on vient de parler de la choucroute. Vous l'achetez peut-être, chers auditeurs, en seau chez votre boucher ou dans votre magasin producteur. Alors quelles sont les grandes étapes de fabrication de cette spécialité alsacienne? Arthur Elmbaché, notre correspondant dans le Grand Est, a enquêté chez Jean-Michel Hadès, un producteur de choucroute, à Krautergersheim. C'est la capitale de la choucroute. Yo. Alors,
ici, vous êtes dans la fabrique de choucroute. Et là-bas, on prend le chou, on sort le trognon. Une fois que c'est coupé, il y a le sel qui tombe dessus. Et puis, ça tombe dans la fosse.
C'est protégé par une bâche en plastique, c'est ça?
Voilà, oui. Et puis, ça peut fermenter.
Ça, c'est le son de la choucroute qu'on met dans son seau.
Voilà, exactement.
Il y a un client qui est là. Là, c'est un seau de 2 kilos.
2 kilos, je pense.
Merci, chef.
Et comment vous la préparez?
Mettez un peu d'eau dans votre casserole et puis vous la faites revenir dedans, vous l'égouttez. Et après, vous mettez votre viande dedans avec les épices, avec ce qu'il faut. Et puis vous laissez cuire à peu près en tout une heure et demie. Et entre-temps, vous mettez un peu de vin blanc sur la fin, agrémenté avec un bon Riesling sur la table en la mangeant.
Ah, on y est. Et cette saison-là, ça c'est vraiment le plat qu'on a envie de mettre au centre de la table en ce moment.
Le dimanche midi.
Mais pourquoi le dimanche midi? Dès le samedi midi, le samedi soir. Non mais en plus, contrairement à ce qu'on pense, c'est comme le pot-au-feu, ce sont des plats assez diététiques, parce qu'on le disait, la choucroute...
C'est la charcuterie qui est
dedans. Plein de bonnes
choses. C'est l'accompagnement.
Voilà, mais on met des petites pommes de terre en féculent à côté, ça marche très bien. On les cuit à part de la choucroute, bien entendu. Alors, la choucroute est faite avec le chou quintal d'Alsace, c'est le chou officiel. Alors, elle bénéficie d'une indication géographique protégée, cette choucroute, mais c'est une IGP qui est malmenée. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ça fait débat en ce moment en Alsace.
Ils n'auraient pas déjà galéré pendant assez longtemps avant d'avoir cette IGP?
Alors, ils ont mis du temps, exactement, comme c'est la Quetsch d'Alsace qui n'est pas arrivée encore. Ouais. Non, ce n'est pas ça. C'est que, figurez-vous, dans l'IGP, dans l'indication géographique protégée, il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'on autorise du chou qui vient de Pologne.
Ah oui, ça c'est gênant.
Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils ont mal, les choux polonais? Ben, c'est que ce n'est pas les mêmes conditions de conservation, de transport, d'hygiène même.
On peut se retrouver.
C'est pas le même terroir. On se retrouve avec des morceaux de trognon à l'intérieur. Donc, il y a plein de producteurs de choucroute en Alsace qui refusent de participer à cette indication géographique protégée. Donc, ça, c'est un sujet qu'il faut suivre de près quand même.
Qui est un peu absurde, il faut bien le reconnaître.
Ah oui, indication géographique protégée, donc c'est complètement...
Et Jean-Michel Hadès, qu'on vient d'entendre, fait une choucroute dans les règles de l'art, mais il ne participe pas, il ne bénéficie pas de l'indication géographique protégée. Donc en tout cas, voilà, renseignez-vous, c'est vrai qu'on veut une choucroute faite avec du chou quintal d'Alsace. Quand on va autour de Strasbourg, de Mulhouse, on voit les champs justement de choucroute. Enfin, pas de choucroute,
de chou.
Non, c'est pas
on
des champs avec les seaux directement.
C'est toujours assez problématique, hein, ces IGP, ça prend toujours beaucoup de temps. Il y a le camembert normand récemment qui vient de l'emporter, mais ça a été très long aussi, plusieurs années.
Ouais,
c'est des grosses batailles.
Alors ici, vous l'entendez, on s'amuse à explorer les arrières-cuisines de notre alimentation, de la gastronomie. Alors exécution dans un instant avec la sortie du guide Michelin cette semaine. Un palmarès, je peux vous dire, qui fait débat vu la situation des restaurants depuis presque un an. On en parle et on aura un invité surprise. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Les sauces sont la colonne vertébrale de la cuisine française. On en a parlé il n'y a pas longtemps ici avec le chef Éric Trochon. D'ailleurs, vous pourrez retrouver le podcast sur europe1.fr. Mais les bouillons, eux aussi, ont le bras long, du maison au tout près. On va boire la tasse dans un instant avec le chef William Ledeuil, un as du bouillon. Mais avant, je voudrais qu'on parle du palmarès du guide Michelin qui a été rendu cette semaine, Charlotte et Olivier. Vous l'attendiez, ce palmarès, Charlotte, par exemple?
Tout le monde l'attend beaucoup. Il y a toujours beaucoup de polémiques avant et de commentaires après. C'est évident. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il fallait vraiment faire rétrograder, surtout. Voilà, rétrograder des restaurants dans une année comme celle-ci.
Je vais vous donner mon avis parce que je m'énerve pas souvent.
C'est vrai. Allez-y.
Mais alors là, franchement, j'ai honte pour ce qu'ils ont fait.
C'est vrai.
Comment peut-on, alors que les restaurateurs ont connu une année aussi difficile que celle qu'ils ont connue. Certaines ont été ouvertes que quelques semaines, voire quelques mois, en conditions normales, jusqu'au 15 mars.
C'est ça.
Et ensuite, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Comment a-t-on pu retirer des étoiles à des gens à qui on les avait données, d'ailleurs, souvent, peu de temps après,
avant, Paris, il y a un cas probant, c'est Jean-François Piège qu'on a reçu ici il n'y a pas longtemps, à qui on avait donné une étoile l'année dernière, on vient de lui retirer. On a goûté la cuisine de Jean-François Piège, je peux vous dire qu'elle n'a pas changé.
Le Châteaubriand, tarif. Ludovic Turac à Marseille. Comment peut-on justifier de les avoir sanctionnés dans des conditions pareilles?
Guillaume Monjuré aussi au Palais Grillet, à Corançon, en Vercors, et surtout, alors, Iñaki Spitz. Bon, peut-être que lui ne fait pas la course.
Iñaki Spitart, c'est le chef du Châteaubriand
À Paris. Le Michelin l'avait déjà oublié pendant une bonne vingtaine d'années parce que c'était quand même un des chefs de file de la bistronomie. Il lui donne son étoile en 2018. Bon, c'était déjà assez tard. Et deux ans après,
on lui
enlève. Bon, voilà, mais de temps en temps, cette année-là, c'est vraiment étonnant.
On sait comment se sont passées les visites, en fait, parce que c'est vrai que dans ce contexte particulier de confinement, de fermeture des restaurants, comment ça s'est passé? C'est toujours un peu sérieux.
Ils ne communiquent pas énormément dessus.
Le Michelin a dit qu'ils avaient mobilisé tous leurs inspecteurs, ceux de l'étranger aussi, et qu'ils avaient mis le paquet pour essayer de visiter autant d'adresses que les autres années, en leur demandant de prendre leur congé sur les périodes de confinement quand les restaurants étaient fermés. Bon, c'est sûr qu'ils ont toujours été critiqués pour une sorte d'opacité dans leurs critères et dans leur façon de faire. On ne peut pas savoir, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent, qu'ils ont visité autant d'adresses que les autres années, ce qui paraît quand même étonnant.
Oui, alors... puis avec la fermeture des restaurants, mais même, j'ai envie de dire, la réouverture à partir du mois de juin et durant l'été, mais ils n'ont pas travaillé de manière normale. Il y avait des problèmes de personnel, il y a des problèmes économiques,
bien sûr.
Parfois des réflexions même sur la cuisine qu'on veut faire, les jauges, tout ça, on n'a pas pu les juger normalement.
Alors le Michelin continue à verdir son discours et son guide, hein. Il y a les étoiles vertes qui ont été remises, il y en a de nombreuses d'ailleurs, avec une chef végane cette année. Hein.
Oui, dans le bassin d'Arcachon, Ona, origine non animale. De la chef Claire Vallée. Donc c'est vrai que c'est une première. Les étoiles vertes, elles sont là depuis très peu de temps. Hein. Le Michelin, là encore, avait été un petit peu accusé de louper le coche des étoiles vertes.
Mais ils essayent de se rattraper.
Donc bon, c'est bien.
Alors il y a eu de belles nouvelles, effectivement. 2 étoiles pour Hélène Darroze, 2 étoiles pour Cédric Dekert en Alsace et 3 étoiles pour Alexandre Mazia. C'est un chef créatif, inventif. C'est un artiste de la gastronomie. Et il est avec nous au téléphone. Bonjour Alexandre Mazia. À Marseille.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous à la table des bons vivants.
Merci à vous.
Dans le quartier
du
Prado.
Merci de votre invitation.
Et bravo.
Merci
alors, beaucoup. Qu'est-ce que ça fait, cette 3e étoile?
Ça donne du baume au cœur et un peu de chaleur à cet environnement qui est un petit peu particulier en ce moment. Et puis, ça fait du bien aux équipes. Ça fait, comme je disais, c'est un bon carnet de correspondance pour les nombreuses absences que j'ai pu avoir avec ma famille. Nombre de SMS, des messages, des mails, comme quoi on représente un certain rôle. Renouveau peut-être de la table.
C'est ça, et vous êtes un chef dans la lignée de Pierre Gagnaire, je le disais, un créatif, un artiste. Non. Quand on va chez vous, on mange une bouchée d'anguilles fumées au chocolat qui est devenu un must incontournable. Il y a un sorbet framboise harissa en pré-dessert, par exemple. Je me souviens d'avoir goûté avec vous à vos tout débuts, Alexandre Mazia, un plat qui était dingue, qui était un cabillaud avec du pamplemousse et un sorbet au Campari. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Si, je me souviens très bien, on avait fait même du macro au café avec vous, quand j'officiais dans le Corbusier.
Et au ventre de l'architecte, hein. Absolument.
Ouais, c'est ça,
et votre cuisine, vous voyez, eh bien on s'en souvient. C'est ça, à mon avis, pourquoi on vous met 3 étoiles,
c'est
effectivement,
gentil.
Parce que c'est une cuisine qui est marquante. Vous avez goûté ces anguilles au chocolat, Olivier?
Oui, c'est vrai que c'est un concept culinaire aussi. Derrière la réflexion d'Alexandre Mazia, il y a toute l'idée du repas, c'est-à-dire qu'il réinvente un moment, en quelque sorte. C'est pas un restaurant classique, on fait pas très plat dessert chez Alexandre.
Ah bah les affaires reprennent, on vous appelle pour prendre des réservations, je pense.
Non. Tant mieux, j'allais vous dire, tant mieux, ce qui est bon, souvent, c'est les clients.
Et ouais. Votre restaurant s'appelle AM, dans le quartier, ce sont vos initiales, hein, dans le quartier du Prado, rue Roca, à Marseille. Merci d'avoir été avec nous et j'imagine que vous avez hâte de réouvrir, Alexandre. Hein. On a hâte.
Bien sûr, on a hâte de retrouver la table, hâte de retrouver ses sourires, ses rires.
Et oui, en attendant, on peut venir commandez chez vous, Alexandre Mazia, parce qu'il y a un food truck qui est situé rue de Paradis, à 100 mètres du restaurant. Un pain au fenouil fumé, du boulgour piment avec du galanga, des kefta d'agneau, un cookie au pois chiche. Enfin voilà, on peut se régaler. Merci Alexandre Mazia d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et bon courage en attendant la réouverture. Et à propos, chers auditeurs, si vous êtes avides de bonnes adresses, eh bien les étoiles les moins chères de France, ça existe et c'est sur europe1.fr. Il y a une carte interactive qui est mise sur le site d'Europe 1 et vous pourrez retrouver comme ça les restaurants accessibles et étoilés. Alors même si les températures se radoucissent par endroits, nous sommes toujours en hiver. Alors si on se faisait un beau bouillon, tiens, avec du goût, des parfums et des ingrédients à se mettre sous la dent, eh ben ne bougez pas. Oui,
on
ça
se
nettoie
un
aussi.
Peu, ouais.
Et mais pas que, c'est nourrissant aussi. On revient juste après ça avec le chef William Ledeuil. Bon samedi matin, alors avant de se prendre un bon bouillon, on écoute, tiens, le nouveau titre de la chanteuse Clou. Jusqu'ici, tout va bien. Bah oui, c'est vrai. Allez, à tout de suite les petits clous.
T'en sais rien, oh, t'en sais rien. Jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien. Mais t'en sais rien, oh, t'en sais rien. Tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint. Le faux comme une flèche qu'on décoche. Blesse ceux qui tenteraient une approche. Mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tu en joues. jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tout va. Rien ne se voit. Tout va. Tout va. Rien ne se voit. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien.
C'était Clou sur Europe 1. Elle est nommée pour les prochaines Victoires de la musique dans la catégorie révélation féminine. Alors lui, c'est une révélation masculine depuis très longtemps. C'est le chef William Ledeuil qui vient parler bouillon avec nous. Bonjour William Ledeuil.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir. Vous avez écrit un très beau livre en 2015 aux éditions de La Martinière que je conseille à tous les amateurs de bouillon et puis à tous les amateurs de goût tout court. Parce que quand on va chez William Ledeuil, ben c'est pareil, on s'en souvient. Parce que entre les bouillons, les infusions, le végétal qui est mis vraiment sur 131, on passe un bon moment. Bon, ça va bien en ce moment, William Ledeuil ?
Bon, ça va bien, ça serait, je dirais, dire que ça va bien, ça pourrait aller mieux. Mais,
ça pourrait aller mieux.
Oui, on est un métier, on est habitué à s'adapter. Donc, en fait, on s'adapte.
Click and collect, ouais. Hein, on peut commander et emporter chez vous.
On avait démarré déjà dès le premier confinement et je dirais on se professionnalise un tout petit peu.
Vous avez trois restaurants, le KGB, le Kitchen Gallery et le Kitchen Terre, qui est un restaurant, j'en ai déjà parlé ici plusieurs fois, qui est boulevard Saint-Germain, avec des pâtes faites avec les blés de Roland Feuillasse à Cucugnan, et des bouillons et des infusions justement qui sont incroyables. Pourquoi c'est votre truc comme ça, le bouillon, William Ledeuil ?
Je dois remonter assez loin en fait, parce que le bouillon c'est quelque chose chez moi à la maison, que l'on mangeait tous les soirs en fait. C'est-à-dire que chaque jour de l'année, c'était une soupe. Un bouillon. Bon, mes parents avaient une boucherie, donc effectivement, pas de jardin, mais tous les gens qui avaient des jardins à la campagne amenaient des légumes, donc c'était un petit peu du troc.
Du troc,
exactement.
Ça existe toujours, ça, la campagne. Voilà, ça, c'est fantastique. Voilà.
Donc c'est vrai que le bouillon, c'était quelque chose, cette soupe, c'était tous les jours. Donc ça m'est resté en tête. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, qui fait partie de mon ADN aujourd'hui.
C'est pas la même chose qu'une soupe, hein, le bouillon. Attention, c'est quoi la différence, vous diriez ? C'est l'infusion ?
Bah, la soupe, on va s'y servir du bouillon pour la faire, en fait. Mais je dirais, c'est vrai qu'on peut mettre soupe, bouillon. Le bouillon, c'est un petit peu la base. Et c'est vrai que dans la cuisine française, je dirais, le bouillon est plus une aide culinaire.
Exactement.
Alors quand on voyage beaucoup, on s'aperçoit qu'effectivement, dans les pays, des continents comme l'Asie, c'est l'essence même du repas. Hein. On parle du feu vietnamien.
On en parlera tout à l'heure des bouillons d'ailleurs, justement. Mais restons en France avec nos bouillons qui sont associés effectivement à une cuisine rustique, une cuisine de campagne. Alors oui, vous dites que ce sont des aides culinaires. Ça veut dire qu'on s'en sert par exemple pour cuire un risotto, pour cuire des pâtes, pour cuire des vermicelles. Pourquoi d'autres aussi on peut s'en servir des bouillons ?
On s'en sert pour tout. Nous, c'est la base d'un jus de viande. Chaque viande qui est travaillée a son propre bouillon qui va servir à faire son jus. Ça va servir à mouiller, je dirais, un bouillon de légumes, une soupe de légumes. C'est-à-dire que c'est la base. Ensuite, après, elle va être transformée. On va la lier, on va mixer, on va la laisser telle qu'elle avec des éléments taillés. C'est un support formidable. Et avec ce support, alors, c'est, je dirais, liberté totale pour les cuisiniers.
Et vous dites aussi que c'est une solution pour cuisiner moins gras ou avec moins de sel aussi ?
Oui, parce que tout dépend, en fait. Je dirais, dans le bouillon, on a plusieurs choses. On a ce que j'appelle la garniture aromatique essentielle, qui va donner, je dirais, le, ce bouillon de base. Et alors après, on a plein d'éléments qui vont permettre de twister. On va jouer sur les acides, sur les piquants, sur les sucres naturels, sur les acidités. C'est ce qui va donner le twist et qui va, on va gommer le sel en fait en même temps. C'est
Quel ça. Serait le bouillon basique que vous pourriez donner comme conseil à nos auditeurs de faire ce week-end par exemple ? Parce qu'on est sur de l'infusion entre guillemets, le bouillon, avant de s'en servir comme aide culinaire pour faire une soupe ou un risotto comme vous le disiez. Déjà, un bouillon du moment là.
Déjà, je vais préconiser vraiment des légumes bio parce qu'on peut tout utiliser. On va utiliser les pelures, on va utiliser les fans, les petites parures. Donc ça, ça va servir vraiment, je dirais, à la base. Après, je dirais, pourquoi pas, je vais faire un...
Donc carottes, navets,
carottes, navets, choux. Alors après, on y va un petit peu avec parcimonie, parce qu'il y a des légumes qui vont prendre le dessus. Donc il faut un petit peu équilibrer. Des champignons, vous avez la feuille de céleri, vous avez la carotte, un petit peu de choux, l'ail, bien sûr. Toujours très important, moi, d'avoir un petit peu d'ail en début de... avec un peu de...
Alors, on les met dans l'eau chaude ou on les fait revenir avant de mettre de l'eau chaude par-dessus ?
Moi, je fais toujours revenir un peu les légumes à la base. Une goutte d'huile d'olive, tout simplement, pour faire suer, pour faire ressortir le suc et le goût du légume. Il y a tout plus de goût. Et après on mouille. Mais en même temps, ce qui est superbe, c'est qu'on peut cuisiner pendant ce temps. C'est-à-dire que, regardez, j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait des coquelets. J'ai juste désossé mes coquelets, que j'ai fait une préparation. Et à côté de ça, ma carcasse de coquelet, mes parures de légumes, et les légumes, j'en ai fait un bouillon.
Voilà,
et j'en fais une belle quantité.
Ça, on peut en faire à la maison. On peut les mettre dans des bacs à glaçons pour les congeler ensuite et puis pour en avoir pour cuisiner au quotidien.
Alors, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que moi, un bouillon, c'est toujours mieux de le consommer, c'est-à-dire de le laisser
reposer
avec les éléments dedans et ensuite de le filtrer à froid. Et de le consommer le lendemain.
Ah, voilà, ça c'est un truc important, comme dégraisser le bouillon du pot-au-feu le lendemain, par exemple.
Oui,
aussi.
Parce que le gras est le support de goût, donc il faut le garder, il faut l'enlever le lendemain.
Alors, le bouillon, on en fait tout un plat ce samedi en compagnie du chef William Ledeuil, auteur du très beau livre Bouillon aux éditions de La Martinière. Ne bougez pas, direction l'Asie dans un instant, à la découverte des bouillons d'ailleurs. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
On bouillonne ce matin en compagnie du chef William Ledeuil, chef des restaurants The Kitchen Gallery, KGB et Kitchen Terre à Paris et auteur de plusieurs livres de cuisine, dont l'incontournable bouillon aux éditions de La Martinière. Charlotte Langrand et Olivier Poul se mettent au bouillon aussi avec moi ce samedi matin. 11h30 passée, tiens, on parle souvent du bouillon de 11h. Vous savez ce que c'est que le bouillon de 11h ?
Mais de 11h du soir ou du matin ?
C'est 11h du soir. 11h
du soir, c'est avant.
Là, j'y pense parce qu'il est 11h30 passé.
C'est avant d'aller se coucher, c'est pour évacuer un peu les surplus de la journée.
William Ledeuil. C'était un truc pour empoisonner les gens. C'était un bouillon qu'on mettait effectivement pour se débarrasser des gens. Dans une tisane brûlante ou un bouillon bien chaud, on mettait effectivement des poisons.
Prendre le bouillon.
Et prendre le bouillon de 11h, bah, tu le prenais bien le bouillon,
ah
tu
oui,
t'en
d'accord.
rappelles.
C'était le dernier.
C'était le dernier bouillon, exactement. Vous êtes bouillon plutôt... Tiens, c'est intéressant ça. Bouillon le midi ou bouillon le soir ? Ou les deux, mon général ?
Les deux, mon général. Il va être un peu plus garni pour le déjeuner, mais je peux en consommer midi et soir.
Garni comment ? Alors, vous nous avez donné votre base de bouillon tout à l'heure avec des légumes du moment, une eau, une belle infusion. Rappelez le temps d'infusion, par exemple, pour des légumes racines du moment ?
Oh, je dirais qu'il faut une heure et quart de cuisson à peu près. Enfin, une heure et demie, on n'est pas 15 minutes près.
Et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans alors pour les garnir, pour faire quelque chose de nourrissant ?
Bah, je vais utiliser les pelures, les pelures de carottes, de légumes, et je vais utiliser aussi le légume. Donc j'ai le fenouil, le champignon, le panais, la carotte, le céleri. On va en faire un peu comme un minestrone. Et moi j'adore par exemple une chose, c'est un peu comme on le fait en Italie, c'est rajouter, vous savez, des pâtes juste à la fin, qui viennent en même temps lier légèrement le bouillon. Donc prenez par exemple...
Pasta et fagioli, comme on dit en Italie, aussi avec des haricots, effectivement.
Et des haricots
comme
également, ouais,
oui. C'est sympa, ça, ouais.
Les légumes, on les jette, en revanche, ils ont tout donné, on les mange pas.
Ah si, alors, on a fait le bouillon avec toutes ces parures de légumes, il est filtré, mais après, les légumes sont taillés, donc là, on les fait pareil, on les fait suer, on les fait transpirer, on leur fait donner le goût, et on les mouille avec le bouillon de base. Et là, on les cuit, je dirais, jusqu'à ce qu'ils soient fondants, donc on va cuire ça pendant 45 minutes maximum, pour qu'on ait encore toute la fraîcheur du légume et le goût du légume.
Vous le dites dans votre livre Bouillon, William Ledeuil, on le retrouve dans les cuisines à travers le monde, le bouillon. Vous avez beaucoup voyagé, l'Asie est très présente dans votre cuisine. Donnez-nous quelques exemples, tiens, de bouillons qui font voyager. Le feu, vous en parliez
le feu, mais alors le feu, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment une source de liberté, parce qu'une fois que vous avez ce bouillon de base, vous mettez ce que vous voulez dedans. Suivant la saison où vous vous trouvez, ça va être l'automne avec les champignons, vous allez avoir les coquillages, ça peut être les crustacés, vous allez avoir les petits pois, les asperges, enfin c'est vraiment...
C'est ça, il y a une infinie, c'est ça qui est bien avec les bouillons, c'est qu'il y a une infinie possibilité de combinaison, et je sais que vous aimez beaucoup la peinture et que vous comparez ça à... une palette de couleurs, où les couleurs seraient les goûts et les différents ingrédients, les herbes, ce que vous disiez tout à l'heure, les légumes, quels qu'ils soient, de saison, etc. C'est vraiment c'est une création de tous les jours, non ?
Oui, parce qu'on a une palette qui est extrêmement large, je dirais cette palette de couleurs qui en même temps sont les couleurs qui ont du goût, donc cette palette de goût, on s'amuse avec. Et plus elle est large, plus les combinaisons sont infinies. Donc c'est vrai qu'on a fait un tome de bouillon, on peut en faire 2, 3, 4, c'est à l'infini.
Homard, carottes et agrumes dans un bouillon, les nouilles, udon, bœuf sauté et kimchi, bouillon de girolles, mousseron et asperges sauvages, bouillon de carottes, citronnelle, cappuccino, amandes et safran, ça c'est dans votre bouquin, bouillon de parmesan avec des petites pâtes, les conchigliers aux épinards et avec de la moutarde, c'est infini effectivement. Et alors là, vous êtes venu avec un bouillon qu'on trouve à la carte de votre restaurant KGB Kitchen Gallery Bis dans le 6e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que c'est que ce bouillon ? Racontez-nous alors.
Ça, c'est un tom kha kai de... C'est un minestrone, je l'appelais minestrone, de légumes. Donc, on fait une base de bouillon de légumes. Effectivement, il y a la garniture classique, plus nous, un tout petit peu de feuilles de citronnelle, de feuilles de curry.
Ça embaume la citronnelle, ah non, on la sent, c'est magnifique.
Rien qu'on est, on voyage. Hein.
Et il y a du beau incroyable. Gras, c'est quoi ce beau gras que je vois à la surface, là, les petits yeux là.
Alors ça, c'est un curry vert. C'est un curry vert, on le fait avec de la coriandre, on le fait avec de la roquette, on peut le faire avec du persil, avec de la l'ivèche, tout ce qui est vert en aromatique.
Mais il y a du lait de coco aussi.
Et il y a du lait de coco, exactement. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça hein.
Ce qui est extraordinaire, c'est l'équilibre en fait. Et c'est ça la magie de ce bouillon, c'est que rien ne ressort. Tout est complémentaire. Alors, on arrive à décortiquer un petit peu les légumes dont vous parlez, mais c'est l'harmonie globale, en fait, de ce bouillon qui est extraordinaire.
Mais c'est un mot que j'aime bien, moi, harmonie dans bouillon, parce que je trouve que, effectivement, on parle d'osmose et d'harmonie. Un bouillon, il est prêt quand tous les goûts et cette osmose de goût, elle est harmonieuse, je trouve. Je trouve que c'est un joli mot, moi, pour bouillon.
Puis il y a de la texture aussi. On mâche aussi.
C'est nourrissant. Voilà, c'est nourrissant. On trouve les pâtes de Roland Feuillasse à l'intérieur dans celui-ci.
Oui, on a mis quelques petites dentelles de cucugnan.
Bravo.
Et un peu de... Alors, il y a des agrumes dedans. Vous avez vu une pâte de lime à gros fruits. Ça, c'est un agrume qui est fait spécifiquement pour nous.
Ça donne le petit coup de fouet.
Oui, exactement.
Ça donne du peps. Ouais. Et ben voilà, donc c'est simple, c'est à la portée de tout le monde. Il faut attendre un petit peu, il faut avoir de belles matières premières, bio essentiellement de préférence, hein, vous nous dites, William Ledeuil. Ouais. Et on retrouvera évidemment plein d'idées dans votre livre « Bouillon » aux éditions de la Martinière. Et petite info supplémentaire, il y en a des tout frais qui sont bons. Moi, je trouve les bouillons ariakés qu'on peut trouver dans le commerce qui permettent de faire de belles préparations. Et il y a les bouillons bu aussi d'Éric Léauté, qui est un chef que les téléspectateurs d'anciennement Cuisine TV connaissent bien, qui fait de belles préparations à base de bouillons.
Et vous pouvez prendre à emporter chez William Ledeuil. N'hésitez pas, hein, ces trois restaurants proposent du click and collect et de la livraison. C'est un délice.
D'ailleurs, le bar à bouillon est en préparation.
Et on vous retrouve demain dans le journal du dimanche avec un beau portrait signé d'une certaine Charlotte Langrange, je
paraît.
Crois. William Ledeuil. Donc tous au JDD demain. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci d'écouter la table des bons vivants, les amis. Dans un instant, nous recevons Patrick Peloux. Et pour l'accueillir, tiens, voici le titre préféré de sa playlist en ce moment. C'est Indochine, nos célébrations. We'll be right back. Ah, ça fait du bien. Indochine sur Europe 1 avec un morceau que notre invité adore et il n'est pas le seul. Médecin urgentiste aux hôpitaux de Paris et au SAMU, il nous a alerté en 2003 sur les conséquences de la canicule. Engagé, attentif aux autres et sincère, il est le copain qu'on rêve tous d'avoir.
Ah yes.
Yes, oui, c'est lui. Merci. Après avoir vu la mort en face de nombreuses fois, il n'a qu'une philosophie, carpe diem. Alors profitons du moment présent avec notre invité. Patrick Peloux. Bonjour Patrick.
Ah, je suis touché, merci. Bonjour.
Laurent.
Merci, mais moi énormément.
Mais
merci
vous
beaucoup.
Êtes vraiment le pote qu'on rêve d'avoir, moi je vous suis
mais
sur
c'est, ça
Instagram.
Ça me fait des frissons, c'est super cool.
Mais
ouais.
C'est vrai, et puis alors votre livre, Urgence de vivre, au Cherche Midi. Alors, je vais vous dire la vérité, quand je l'ai reçu, je me suis dit, purée, ça va raconter la vie aux urgences de Patrick Peloux, il y a des trucs hard, ça peut être un petit peu difficile. C'est un concentré d'humanisme, votre
merci.
Livre, parce qu'on rigole, il y a de l'espoir, non mais je suis sérieux, il y a de l'enthousiasme. le café est très présent, d'ailleurs,
oui.
Racontez, vous n'êtes pas, comment dirais-je, très sélectif hein, sur le café.
Non. On boit l'assistance publique, on l'appelle le mazout.
Vous en buvez beaucoup, hein, ça vous permet de tenir.
Trop. J'essaye de faire un mois de janvier sans café, d'ailleurs. J'y arrive pas
c'est
trop.
C'est votre dry January.
Oui, c'est mon dry. Pas question d'enlever le pinard. Premier qui touche à ma bouteille, c'est un œil sur la bouteille, un œil sur la bagarre.
On a une surprise à vous faire déguster avec Olivier Pouls dans un instant. Alors, je le disais, vous vivez à 100 à l'heure. Vous avez affronté de nombreux drames, on le sait, Patrick Peloux. Est-ce que la table est une amie qui réconforte alors
énormément. D'abord parce que j'ai des souvenirs avec ceux qui m'ont quitté trop tôt par l'attentat de Charlie Hebdo, des souvenirs à table qui étaient énormes et ça a toujours eu en fait beaucoup d'importance pour moi parce que c'est les copains. C'est un côté artiste par les quelques grands chefs que je connais. Ce sont des vrais artistes et puis si vous voulez, voilà, vous faites à bouffer, vous faites l'amour en fait. C'est un truc et c'est pour les amis, c'est pour les copains. Et
c'est généreux.
C'est généreux comme j'aime et je les salue. Le marché, mon marché qui est rue du président Wilson. Et voilà, j'y vais à 7h30 le samedi matin et j'y reste généralement jusqu'à 10h.
Et ben voilà, et maintenant vous êtes là. Alors quel est votre goût de la semaine, tiens?
Mon goût de la semaine, c'est une côte de bœuf qu'a cuisiné un de mes amis à four à basse température et c'était absolument génial. Quoi.
Comme du beurre.
Du beurre, voilà. Et voilà.
Alors,
et voilà.
On va rendre hommage aujourd'hui à quelqu'un qu'on aime beaucoup et je suis sûr que vous l'aimiez beaucoup. C'était Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés cette semaine. Hein, et il nous a quittés à 69 ans, le génial auteur et interprète de Cuisine et dépendance, hein, Charlotte,
et
auteur, absolument. Avant de lui rendre hommage, on écoute un petit extrait.
Je vous propose de l'écouter.
Hein. Jacques,
ouais.
Je voudrais pas me mêler, mais j'ai l'impression que ça sent brûler, non?
Ah bon? Non.
Ah si.
Est-ce que j'éteins, moi? Je sais pas. Hein. Bon, je pourrais éteindre. Non, mais est-ce qu'il faut éteindre, là? Vous croyez, vous?
Ben ça dépend, si c'est un plat qui se mange brûlé, il faut laisser encore un peu.
Voilà, il faut les voir, hein. Darroussin, Carman et Bacri, plantés là, interdits devant le four, dans la grande cuisine bourgeoise du film Cuisine et dépendance, écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, le haddock de Martine, génial Zabou Bretman. Le haddock brûle et avec lui, le repas tout entier qui glisse vers un règlement de compte général entre amis.
Et ça arrive.
Ils s'en racontent beaucoup d'histoires de vie le temps d'un dîner dans cette cuisine confessionnal, niché tout au bout du couloir. En cherchant l'ouvre-boîte, on refuse de prêter de l'argent à un frère un peu pique-assiette. En débouchant une bouteille de vin, on fustige l'arrogance des riches qui font exprès d'arriver en retard et on rumine une carrière d'écrivain un peu ratée. Et puis pour oublier qu'on n'en peut plus de sa vie de femme au foyer, bah, on s'empiffe de la bûche à moitié fondue.
Alors c'est vrai que les repas, on a remarqué, sont présents et importants dans de nombreux films que Jean-Pierre Bacri a écrits et dans lesquels il a joué aussi. Hein.
Bah oui, Bacri est parti et je crains que les repas ne redeviennent bien moroses hein, sous sa plume lucide et ciselé. C'est souvent à table que les choses importantes se disent, que les familles éclatent, que les masques sociaux tombent, que les amitiés se célèbrent. Bref, c'est l'hypocrisie qui est chahutée et Bacri nous laisse d'innombrables scènes de repas cultes que n'aurait pas renié Chabrol ou Sautet parce qu'elles sont dans la lignée des films français où la table a de l'importance autant qu'elle en a dans nos vies réelles. Alors, C'est au tour du zinc de Georges dans son restaurant-bar au Père Tranquille que la famille Ménard se disloque dans un air de famille.
C'est vrai.
Entre la Suze et le canard, on y dit les préférences de la mère pour l'un de ses fils, l'amour d'une journaliste libre pour un serveur enfin gentil, le mépris mielleux d'un mari égocentré pour sa femme ou l'immense tendresse contenue d'un bistrotier, Bakri, pour retenir la sienne.
Et
femme.
Sans oublier le goût des autres qui est repassé à la télévision cette semaine, ouais. Où il y a aussi là un bar... un restaurant, un théâtre, enfin bref, tout ce qui nous manque en ce moment.
Oui, ça nous manque beaucoup.
Hein bah oui,
ça
c'est...
Ça, non, mais c'est
terrible.
Ça nous manque et vous savez, on ne redira jamais l'importance sociologique des troquets, des cafés, des bars, des restaurants.
Mais vous avez vu comme ça manque, on voit même des attroupements maintenant devant les cafés où les gens se retrouvent pour boire les boissons sur le trottoir.
Je salue un des bistrotiers vraiment typiques, l'un des derniers de la rue des Martyrs, chez Dédé, à l'Ariel, qui continue à faire du café, des fois à servir un verre de blanc dans un gobelet, on ne devrait pas le dire, pour les plus âgés du quartier, chez qui le café manque. Vous voyez, ce côté où on se met au comptoir, ça nous manque. Je l'ai dit l'autre fois à Castex, on a fait un entretien très long et je lui ai dit, vraiment, sociologiquement, la médecine, moi je ne peux pas faire grand-chose en fait, parce que je soigne le somatique, d'accord, mais il y a le psyché et puis vous avez le social. Or ça, vous pourrez donner tous les psychotropes que vous voudrez. Si les gens ne sont pas ensemble, et l'un des plus grands fléaux de la Covid-19, c'est la solitude.
Absolument.
Donc il faut absolument réussir. Moi, c'est ce que je milite depuis quelques jours là-dessus, parce que c'est sûr qu'on va avoir un confinement, sans doute sur le modèle de ce qu'on a eu en octobre. Mais il faut vraiment se préoccuper de ça. Ça va, si vous voulez, ça va au-delà de la seule revendication sociale des professionnels. C'est vraiment une question de survie pour les gens.
Et c'est difficile aussi pour nos étudiants. On pense à eux, justement, nos étudiants, et on va leur rendre hommage à nos étudiants avec un plat du jour qui sera fait par les étudiants de l'école Ferrandi, une belle école de gastronomie à Paris. Ce sera après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. A tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Voici les titres d'Europe Midi, Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. À la une du journal de la mi-journée, la Haute Autorité de Santé demande au gouvernement d'accélérer la vaccination et de vacciner plus de monde pour faire face à la flambée épidémique qui s'annonce. Comment ? En espaçant un peu plus les deux injections que l'on fait pour chaque personne. Le délai est normalement de 3 semaines. La Haute Autorité recommande de passer à 6 semaines. Cela pourrait permettre, dit la Haute Autorité, de vacciner 700 000 personnes de plus en un mois. Alors qu'à ce jour, 963 000 personnes sont vaccinées en France. À 12h45, je reçois la présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité, le professeur Elisabeth Bouvet. Toujours dans le journal de la mi-journée, nous serons à Dieppe où 148 soignants de l'hôpital sont contaminés, 106 en arrêt de travail. Pour l'instant, le variant anglais ne semble pas en cause. La direction dit que la situation est maîtrisée. Nous serons sur place. Vous entendrez l'Académie de médecine qui dit, comme l'Organisation mondiale de la santé hier soir, qu'il faut continuer à porter des masques artisanaux faits à la maison, mais aussi qu'il faut se taire et ne plus téléphoner dans le métro pour éviter les contaminations. L'actualité sportive avec le carton du PSG 4-0 face à Montpellier en ouverture de la 21e journée de la Ligue 1 hier soir et surtout Kylian Mbappé qui marque et qui parle de son avenir. C'est ce que nous dira Julien Froment. Et l'affiche de la soirée, c'est Monaco-Marseille à 21h au Stade Louis II. Une météo en noir et blanc ce samedi, nous dira Valérie Darmon, avec le retour de la neige. Et puis, vous savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. On reviendra sur le casse-tête de la vaccination pour les plus de 75 ans et surtout le casse-tête pour prendre rendez-vous. Et puis, vous entendrez l'émotion d'une jeune chef qui reçoit sa première étoile, chef végane qui cuisine sans beurre ni œufs. Et c'est savoureux.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Eh bien justement, à 12h de minute, on reste en cuisine et vous retrouvez Laurent Mariotte.
Ça pour un euro.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus, si vous nous retrouvez, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le podcast de l'émission sur europe1.fr. Alors nous avons bu de bons bouillons, nous en avons croqué pour la choucroute et nous revoilà avec notre invité, le médecin urgentiste Patrick Peloux. Et auteur, avec une très belle plume, dites donc.
Ah merci, c'est gentil.
Ah bah, je vous le dis, c'est urgence de vivre.
Merci.
Au Cherche Midi, il y a plus de 100 histoires vécues dans ce livre. Alors, il y a une scène hallucinante d'une famille du Nord qui vient à Disneyland. Papa, maman, ouais, les deux enfants.
Là, oui, oui, bien sûr, ça m'avait marqué, ça. Et le monsieur a fait un arrêt cardiaque.
Au restaurant.
Au restaurant. Remarque, c'est normal que vous ayez pensé à celle-là.
Non, mais non, il y en a plein d'autres. Non, non, il y en a plein sur
mais
la solitude.
C'est vrai que c'était surréaliste parce que j'étais en train de le réanimer comme ça. J'étais par terre sur le... Et t'avais le restaurateur, t'avais une espèce d'étage et les gens continuaient à manger. Donc d'un coup, il y avait le bruit des fourchettes comme ça, d'accord. Et puis toi, j'étais en train de faire poète, 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 poète. Et puis le truc était tellement fou parce que les deux petites filles et la maman avaient été mis un peu dans le couloir comme ça. Putain de bordel, je voulais pas qu'il meure.
Eh ben, il est pas mort.
Et il est pas mort.
Vous
et
l'avez
à un moment,
sauvé.
Et c'était assez bizarre parce que d'un coup, il y avait une espèce. Des fois, c'est comme ça dans les équipes. Il y a une espèce de bande poisson avec. Et ça commençait à faire genre non, mais là, c'est fini et tout. Et moi, j'étais non. Et puis à un moment, il est reparti. Ah, et on l'a sauvé.
Et vous l'avez
et on
sauvé.
Ouais,
et
ouais,
grâce aux plus de 40 minutes de massage cardiaque,
oui,
comme vous dites, parce que c'est vrai qu'avant, on arrêtait rapidement le massage cardiaque. Ouais. Et là, il faut le dire, effectivement, pensons aux défibrillateurs sont à portée de main. Et faisons tous du secourisme pour avoir ces premiers
bien
gestes
sûr.
De massage
et
cardiaque.
Et là, vous pouvez aller chez les pompiers. Chez les pompiers, à la Croix-Rouge française, à Protection civile, chez les pompiers. Vous allez dans votre secteur voir les SDIS. En plus, ils sont contents de voir les gens... Et faire ça c'était une sacrée histoire.
Urgence de vivre. Alors Patrick Peloux, vous avez le sens de l'amitié. C'est confirmé par notre camarade Yves Candebord qui est à cette table régulièrement.
Oui.
Il sera là la semaine prochaine. Mais en attendant, il a une question pour vous.
Yes.
Mon
Yves.
Petit Patrick, écoute, j'ai vu que tu étais le roi de l'apéritif virtuel. Et pour une fois, c'est moi qui vais te demander un conseil culinaire.
Non.
J'ai dans mon frigo une langue de veau cuite. Et je voudrais la twister pour boire l'apéro. Est-ce que tu as une recette ?
Ah oh là 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 là.
Le cadeau.
Ah, écoute, mon ah là là.
En pastrami, en sandwich, comment vous la faites, la langue de veau cuite ?
Non, moi je la alors écoute, moi je la couperai. Alors je sais pas, je dis des grosses conneries comme ça, j'ai jamais fait de langue de veau. Moi je la couperai vraiment fine comme ça, je la ferai niaquer, très vite sur la poêle. Peut-être avec une cuillère de vinaigre balsamique et crac.
Ah bah c'est bien, du simple ça. Voilà.
Simple.
Aller-retour comme ça.
Tu vois, aller-retour comme ça, à la cool, avec un peu de poivre et hop, terminé.
Ah oui, puis c'est bon ça, la langue de veau écarlate comme ça aussi.
Puis vous savez, il faut redécouvrir toute la triperie parce que c'est pas cher et vous mangez très très bien. La langue de veau, c'est comme le cœur de bœuf, etc.
Les rognons.
C'est absolument pas gras.
Mais nous sommes dingues. Absolument, le gras double porte très mal son nom.
Exactement.
Nous sommes d'accord.
Oui, c'est très diététique.
Et c'est un docteur qui vous le dit, chers auditeurs.
Manger de la langue.
Exactement.
Alors, on ne va
pas
manger de la langue, mais on va manger un poisson de pêche durable parce que c'est l'heure du plat du jour. Et je le disais, pour soutenir nos étudiants et penser effectivement aux étudiants qui nous écoutent,
c'est
l'école Ferrandi qui a fait le plat du jour.
Mmh. Ah, bah dis donc, c'est bien présenté, c'est joli comme tout. Hein,
c'est un poisson qui est bien taillé, vous avez vu. Il a été mariné, ce poisson. C'est un étudiant en troisième année qui nous l'a fait. Il s'appelle Raphaël Chapeau.
Raphaël.
C'est le cas de le dire.
Mon gars, t'as un beau nom. Quoi,
et il vous a fait ça, c'est pour vous Patrick Peloux, parce qu'on sait que vous aimez les plats de bistrot.
Ouais.
On parlait du manque des bistrots et c'est une petite façon de revisiter le hareng pomme à l'huile. C'est pas du hareng. Et tiens, on va voir si vous trouvez ce que c'est.
Qu'est-ce que c'est bon ?
C'est un poisson gras.
C'était légèrement brûlé, non ?
Ouais. C'était fumé au chalumeau.
Voilà.
Exactement.
C'est délicieux. Le fumé avec le gras, ça donne une association dingue en bouche.
Vous avez trouvé le poisson ou pas ?
Ça craque.
C'est du chinchard.
Alors, je ne connais pas.
Chinchard,
c'est vachement bon. Hein.
Alors, poisson de pêche durable et abordable pour le portefeuille. Vous pourrez refaire la recette, on vous la mettra sur europe1.fr. Et c'est
moi,
délicieux.
Je félicite l'étudiant et ses professeurs, bien sûr, et ses enseignants qui lui ont permis de créer ça. Il a de l'avenir, le gamin. Là.
On les félicite d'autant plus que d'habitude, ils valident leur année in situ dans les restaurants et que cette année, ils ne peuvent pas. Donc, ils ont décidé de créer une carte en click and collect pour proposer au public une quinzaine de recettes.
Ah, c'est bien ça.
Et puis, validées par la même occasion.
Exactement. C'est
moi,
vrai
je fais ça une fois par semaine. J'ai repéré quelques restaurants. Notamment la régalade de Doucet. Et enfin, une fois par semaine, tu milites et tu vas chercher tes gamelles.
Bien
et...
sûr, il faut soutenir les restaurants et les restaurants d'application de l'école Ferrandi et des autres écoles hôtelières, évidemment, partout en France, qui s'y mettent. Et effectivement, à propos des étudiants, n'oublions pas qu'Emmanuel Macron a annoncé cette semaine deux repas à 1 euro chaque jour, enfin 1 euro par repas, pour aider les étudiants à pouvoir manger correctement, en tout cas, et sans casser la tirelire, parce que, ne l'oublions pas, nos étudiants n'ont pas de job en ce moment pour financer leurs à côté.
Très compliqué, tout ça.
Et c'est une belle réussite. Hein, avec, regardez, il y a des graines de coriandre aussi, et puis, de l'anis étoilé.
Il y a une graine soufflée et également un peu croquante dedans, qui est délicieuse, qui apporte de la texture.
Ah non, c'est d'enfer. C'est vachement bien.
On vous mettra les références sur europe1.fr. Vous aimez boire, hein, Patrick Peloux, hein ?
Moi ? Jamais. Oui.
Jamais.
Jamais d'eau.
Avec modération, mais avec plaisir. Eh bien, on revient avec une bouteille du nord de la Loire. Où ça donc ? Eh bien, restez avec nous, c'est une sacrée surprise, vous allez entendre.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Médecin combattant, engagé et bon vivant, c'est le docteur Patrick Peloux qui est notre invité ce samedi midi. On est ravis de vous avoir à notre table.
Merci
Patrick.
Europe 1, merci à Laurent, merci.
Urgentiste, comment on concilie un rythme de travail effréné et une pause à table au quotidien ? Comment vous faites ? Comment vous
Oh là 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 ! Alors, sans conflit pour qui que ce soit, il y a vraiment deux mondes. Il y a chez toi, voilà, là c'est plutôt les copains, donc là, évidemment... j'aime beaucoup la table, donc je sortais beaucoup, je sors évidemment plus du tout, comme tout le monde. Mais il y a ça, donc du coup, j'adore faire la cuisine, on y reviendra peut-être, mais je ne suis pas un grand cuisinier, mais je fais de la cuisine par passion.
Vous maîtrisez
par
très bien.
Voilà, il y a ça, et puis il y a l'hôpital. Alors là, c'est consternant, écoutez, on n'a fait aucun progrès sur l'alimentation dans les hôpitaux, parce que comme il y a eu des restrictions budgétaires, ils ont fait des économies et que le prix de l'alimentation a monté. Donc c'est vraiment très mauvais. Je l'avais dit au directeur général, il faut qu'ils arrêtent de faire du poisson, par exemple. Parce qu'on massacre des bancs de poissons entiers en pleine mer pour les foutre à la poubelle. Donc ça sert strictement à rien. Une fois, je leur ai dit, écoutez, faites plutôt des bons sandwichs, d'accord ?
Bien sûr.
Le jambon beurre, par exemple, ou le sandwich avec de la dinde, enfin peu importe, plutôt que de faire des plats qui de toute façon sont jetés. Donc là, on est en grande souffrance, donc... Avant que ça ferme, on enrichissait autour du SAMU de Paris tous les troquets, les bars, etc. Et tant mieux pour eux. Mais ça, c'est vrai que c'est une grande souffrance quand on travaille.
Ouais. Alors, vous parlez pour vous, les soignants, mais c'est une grande souffrance aussi pour les patients parce qu'on mange pas très bien, on va se dire la vérité à l'hôpital.
Ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a eu une évolution. Quand j'étais étudiant en médecine, quand quelqu'un était malade, il lui amenait des revues, il lui amenait des fleurs. Maintenant, les gens, ils amènent à bouffer.
C'est ça, vous le dites dans le livre.
Par compassion.
Oui, par compassion. Par soutien mort.
On le sait, la table soigne, c'est un vrai sujet, ça.
Oui, vous savez qui a fait passer le message ? Alors, ça remonte à la fin des années 90. C'est une association qui s'appelle AIDE, qui est une association qui existe toujours pour combattre le sida. Et c'est eux qui avaient réussi à expliquer, parce que les malades qui étaient hélas atteints du sida, qui étaient hospitalisés, mangeaient toujours froid. Et c'est eux qui ont poussé et qui ont acheté des fours à micro-ondes pour que dans chaque chambre, les malades puissent réchauffer leur
corps. C'est dingue.
C'était ça. Donc d'un coup, c'est là où vous apercevez de l'importance des malades. Ouais. Mais moi, à mon sens, faisons plus simple et faisons meilleur. Voilà.
Allons à l'essentiel et à la simplicité, bien sûr.
Mais oui.
Alors pour se réchauffer aussi, il y a le vin, la boisson, avec plaisir, mais avec modération, bien entendu. Alors, on va vous faire goûter, Patrick Peloux, et vous, chers auditeurs, aussi virtuellement, un vin de pays qui va déclencher des discussions à table, j'en suis certain. On aime ici vous faire découvrir des vins étonnants. On a fait un vin normand il n'y a pas longtemps. Ça, c'est un vin qui est toujours au nord de la Loire, on va dire, aujourd'hui. Hein.
Je laisse Patrick le goûter. Il m'a dit, ça me fait penser à...
Au Chassagne Montrachet, oui.
Alors, évidemment, c'est beaucoup plus pour le vin dont il s'agit, puisque vous avez au moins un point de bon, c'est que le cépage, vous l'avez trouvé.
Ah, bravo.
C'est du chardonnay. Mais alors, ce serait un peu trop facile de vous servir du Chassagne Montrachet. On est quand même allé. C'est quand même un peu cassé la tête autrement.
Mais là, il est très fruité, il est très très bon. Hein.
Ouais. Alors, je vais vous donner un petit indice.
Chantez-le.
Au nord, c'était les corons.
C'est du Bachelet.
les hommes, pas des mineurs de fond, les hommes des vignerons.
Ah, très bien.
C'est un vin du Nord, un vin de Terril.
Un vin ch'ti.
Un vin ch'ti, c'est totalement inattendu. Alors, c'est une histoire absolument incroyable.
Les terrils, ce sont les montagnes dans le nord qui sont faites effectivement
de
résidus miniers. Quand on creuse pour faire de la mine, il faut bien mettre les extraits dehors. Donc on en fait des montagnes. Donc on skie sur les terrils, mais on fait aussi du vin sur les terrils.
Oui, là, on est à Hélécourt. C'est un terril qu'on appelle le terril 2B. Il fait un peu plus de 300 mètres de hauteur quand même, c'est assez conséquent. C'est-à-dire quand on va dans la région, je peux vous dire qu'on le voit. Et il y a une association, quelques passionnés, qui se sont dit, mais tiens, En fait, il y a de la végétation qui pousse là-dessus, donc c'est un sol qui est assez fertile. Et si on essayait de faire pousser de la vigne ? Alors, Henri Jamet, vigneron en Charente, et Olivier Pussec, originaire du Nord.
Comment il s'appelle ? Cussec ?
Pussec.
Ah, Pussec.
Pussec. Se sont dit, eh ben, on va utiliser ces terres. Ils ont planté un peu plus de 2000 pieds de vigne de Chardonnay. L'aventure a démarré en 2011, première récolte 2013. Et donc voilà, vous avez le produit.
Très très bon.
Et ça se boit très bien.
Ah, c'est bon.
Totalement surprenant. Alors autant vous dire qu'il n'y en a vraiment pas, suivant les récoltes, il y en a entre 500 et je crois peut-être 1000 bouteilles.
Ça se trouve où,
au
alors,
maximum.
Oui.
Alors ils en gardent un petit peu pour l'association, mais quelques bouteilles sont vendues chez les cavistes du coin, les cavistes de la région, dans Schnorr. Et alors, mais j'ai pas le prix en
redites
revanche.
Redites le nom.
Alors ça s'appelle, alors petit clin d'œil amusant, ça s'appelle Charbonnet Vin de Terril. Évidemment, vous doutez bien qu'il n'y a pas encore d'appellation d'origine contrôlée. C'est quand même, franchement, c'est bluffant.
Vachement bien.
On a le gras du Chardonnay qu'on peut trouver effectivement à Chassaigne. On a une belle finesse. Moi, je trouve ça très bon.
On mettra les références sur europe1.fr. Ne bougez pas. On revient dans un instant avec notre questionnaire et on va cuisiner justement Patrick Peloux de l'autre côté de la fourchette. Quel genre de cuisinier est-il ? Comment se tient-il à table ?
Très mal. Soyons clairs.
On revient à tout de suite sur Europe 1 et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
La joie d'un joli vin de Terril grâce à Olivier Pouls que nous buvons en bonne compagnie avec le docteur Patrick Peloux qui est notre invité. Il est des nôtres et on retrouvera évidemment le podcast sur europe1.fr. Urgence de vivre, c'est votre livre aux éditions du Cherche Midi.
Merci Laurent.
Je le disais, non mais vous écrivez très bien, vous êtes un humain. Non mais je suis très, très sincère et très sérieux
vous
quand
buvez,
je dis ça.
Vous buvez bien et donc ça améliore vos perceptions de la littérature française.
Probablement,
c'est pas mal.
Probablement, avec modération bien entendu. Vous trouvez quand le temps d'écrire sérieusement ?
Ah écoute, ça serait long à expliquer, mais disons que j'étais pas parti pour être écrivain, etc. En fait en 2004, quand Charlie Hebdo est venu me chercher, je me suis mis à l'écriture et puis d'un coup, Et ça me fait plaisir de sortir ce livre parce qu'ils ont sorti l'anthologie des 50 ans de Charlie Hebdo et ils ont fait exprès de ne pas me mettre dedans après des conflits qui sont du passé, mais c'est comme ça. Et donc, ça m'a fait plaisir de sortir quasiment en même temps l'anthologie de mes chroniques.
Eh ben, très, très, très belle chronique. Et justement, on parle beaucoup de solitude dans vos chroniques, la solitude qui nous concerne tous, nos familles. Et je pense à cette dame qui vit dans un appartement entouré de livres et qui ne veut pas partir de son appartement et qui doit aller à l'hôpital et qui revient chez elle entourée de livres. Elle est entourée de plein de gens grâce à ses livres, quoi.
Ouais, hélas, j'ai fermé les yeux à plus d'une personne et vu, à mon avis, avec le temps qui passe, tous les drames possibles, imaginables. Mais donc, il y a des choses que je sais qui sont... Je ne suis pas philosophe, je n'aurais pas cette prétention, mais sachez juste que quand vous êtes avec quelqu'un qui va passer de l'autre côté, il ne regarde pas son livret de compte en banque. Il n'y en a aucun qui s'endort en regardant sa carte bleue, d'accord ? Ou en se disant que ses actions ont monté. Il n'y en a pas. Par contre, ils regardent les bouquins, ils regardent les photos, ils regardent l'amour.
Les photos,
et voilà, ils ont faim. J'ai déjà vu des gens vouloir passer la main en buvant une dernière coupe de champ. Moi, à chaque fois, je dis, écoutez, s'il aime boire, etc., sur les soins palliatifs, s'il aime boire du Bourgogne, achetez tout le Bourgogne que vous voulez, etc.
Marc Menot, qui vient de nous quitter, ce grand chef, il n'y a pas longtemps, a demandé un saucisson brioché avant de mourir.
Et ben voilà, et ben c'est ça la vie. D'accord ? Moi, je veux bien après que vous soyez le plus riche du cimetière, mais vous n'aurez rien compris.
Et la cuisine est un pansement, vous le dites aussi dans ce livre. La cuisine, elle tient une place importante dans votre vie, Patrick
Peloux.
Oui,
bien sûr,
maman cuisinait très bien. Hein.
Ah bah alors ça c'était ma mère, elle était basque. Donc,
les chipirons, les calamars.
Les chipirons, écoute, les chipirons, c'était formidable. Le poulet basquaise, alors ça, en veux-tu, en voilà. C'était la piparade. Alors là, je pense que j'ai pas de globules rouges, mais j'ai de la piparade qui passe qui dans mon sang.
La cuisine alsacienne aussi vous plaît beaucoup ?
Oui, beaucoup. C'est une rencontre récente avec une de mes collègues qui m'a offert un bouquin absolument, mais un bouquin à compte d'auteur. D'un couple de gens qui ont fait... Il y a des plats géniaux dedans. Le cœur de bœuf, par exemple. J'ai découvert et je me suis mis à faire du gigot de 7 heures. Ouais, en bake-off.
Gigot de 7 heures.
Le gigot de 7 heures. C'est alors magnifique. Ça, je vous inviterai à la maison. Pas forcément tous les auditeurs, parce que je sais que maintenant, vous en avez de plus en plus. Donc,
oui, mais c'est vrai, mais c'est bien de le souligner. Mais en plus, on délocalisera et on fera la...
Chez vous.
Pourquoi pas, mais voilà. Ça serait drôle.
Ça, c'est drôle. Chez Patrick Pelou. Avec plaisir.
Vendu.
Vous savez que nous, on fait les choses. Attention.
Je suis à fond pour. Alors là, avec plaisir.
Alors, en attendant, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants.
Allons-y.
Pour mieux vous découvrir encore, cher Patrick Pelou.
Merci.
Quel est le goût de votre enfance?
Ça retombe, c'est ma mère qui était une femme au foyer exceptionnelle et qui faisait toujours la bouffe. Et c'était vraiment... Il y avait le poulet basquaise, les chipirons. Elle faisait un gâteau basque. Heureusement, j'ai ma fille. Alors, attends, c'est drôle. Ma fille, quand elle avait 8 ans, ma mère lui avait dicté comment faire le gâteau basque. Et on a retrouvé la recette cachée de ma mère du gâteau basque. Donc, voilà.
Le pouvoir de la transmission.
Voilà, alors, ça retombe toujours parce que j'ai trouvé ce tic chez les grands chefs qui parlent toujours de leur grand-mère et tout ça. C'est un tic des grands chefs. C'est sympathique. Mais en fait, nous, on est pareil.
Mais c'est vrai. Mais oui, pareil. C'est ça surtout. Le premier plat que vous avez cuisiné, Patrick?
Comme tout le monde, c'était les plats de pâtes, en fait. C'est les pâtes. C'est les pâtes parce que... Voilà, tu divorces, il faut faire à manger aux gamins.
On est étudiant.
On a tous connu ça. Hein. D'un coup, tu te retrouves les pâtes.
Jusqu'à la boîte de ravioli.
Jusqu'à la froide. Et si tu veux, mes gamins, qui sont grands maintenant et que j'aime par-dessus tout, ils trouvent que j'ai fait énormément de progrès et ils ont raison. Quoi.
Votre pire repas? Je le vois venir.
Vous avez un service de renseignement à Europe 1 qui est pénible. Bon, le pire que j'ai fait, je vous la raconte. Mais j'en veux à personne. J'ai un fromager qui s'appelle Philippe qui est remarquable. J'adore faire la fondue savoyarde et j'ai trouvé un truc sur la fondue savoyarde. Je la fais avec des légumes. Comme ça, t'as pas le côté éponge du pain.
Absolument.
Vois, qui bourre. Donc, avec les légumes et tout, les racines.
On se rachète une petite conscience.
Voilà, mais non, mais c'est plus léger. Tu peux en manger beaucoup plus.
Ouais. Technique.
Et il se trouve qu'il était pas là. Il avait un jeune apprenti qui était là. Et donc, moi, je fais toujours confiance. Donc, je lui dis, je vais prendre de la fondue pour 8 et tout. Et le mec se trompe, en fait. Il m'a donné du fromage à raclette. Moi, j'ai pas fait gaffe, donc j'ai cuisiné ça normalement. Alors, la fondue épouvantable, il y avait des grumeaux et tout. Et j'avais ma grande amie, Josiane Balasco, qui venait bouffer avec Fred Bourali, vous connaissez,
qui est
le célèbre José.
Bien sûr, hein.
Ils venaient tous les deux dîner. Ça a été le dîner le plus raté. C'était il y a 2 ans, à chaque fois. Ils m'en parlent.
Ils en parlent. Oui, les grumeaux du fromage à raclette. Et votre plus grand succès en cuisine, alors?
C'est la côte de bœuf, hein. Tout le monde dit la côte de bœuf de Patrick. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Je la fais d'abord revenir comme ça sur la poêle. Tu vois, je la fais gnaquer, je la laisse refroidir avec plein de romarin. Puis après, je la passe au four rapidement.
Saignante ou à point alors?
Royal au bar, ça part du saignant. Puis après, s'il y en a qui veulent à point, je fais revenir avec du poivre à la poêle comme ça. Hop, ça passe.
Un vrai chef, hein. On va venir manger chez Patrick Pelou.
J'ai presque faim, là, tout à coup.
Vous êtes les bienvenus. Hein.
Votre adresse secrète, tiens, Patrick Pelou.
Mon adresse secrète, alors c'est un restaurant qui est à l'angle de la rue Navarin et de la rue Henri Monnier, je ne sais plus le numéro. L'Estaminet. Écoutez, c'est une dame qui s'est mise à faire un petit restaurant avec des plats sans prétention, tu vois, c'est pas cher. Elle est adorable et t'y vas, tu bouffes divinement bien. Et l'autre fois, je suis allé manger une estouffade, mais c'est qu'est-ce que c'est bon, quoi. Et puis un plat à la bière aussi qui avait été fait comme ça.
Une carbonade
aussi.
Des
vrais mijotés.
L'Estaminet dans le 9e.
Vraiment.
Et pour finir, le mot de la fin, FAIM.
Encore.
durable. Encore. Et on serait bien encore resté avec vous à table. Merci d'être venu, Patrick.
Mais c'est
Pelou.
Moi. Merci beaucoup. Continuez. C'est vachement bien ce que vous faites.
Urgence de vivre aux éditions Cherche Midi. Merci beaucoup pour vos compliments et merci d'être venu. Je signale aussi janvier 2015 aux éditions de l'Échappée qui revient sur le procès Charlie Hebdo. Ça vient de sortir. Merci à toute mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Rendez-vous sur europe1.fr. Vous retrouverez les podcasts également sur Europe 1 avec les recettes. Merci Charlotte.
Merci Laurent. Merci à tous.
Merci Charlotte.
Merci. Olivier. Qu'est-ce qu'il dirait, tiens, Jean-Pierre Bacri, pour finir?
Je dirais, la vie est une situation délicate.
On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, faites le marché, la cuisine. Et dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bon week-end sur Europe. Merci Patrick.
Merci à vous. Merci.